Le tour d'horizon. Ici Éric Lantier. Je vous invite à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon. Le tour d'horizon est une émission quotidienne qui survole les enjeux du 21e siècle. Je commenterai les sujets d'actualité qui concernent les gens de foi et les citoyens de bonne foi. Je vous invite donc à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon pour voir plus clair sur cette terre. Soyez des nôtres, le tour d'horizon débute à l'instant.
Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et merci d'avoir syntonisé le 92,7 FM ou de prendre part à ce tour d'horizon via radiovienouvellefm.com. Veuillez noter que le tour d'horizon vise à donner aux gens de foi et aux citoyens de bonne foi une plateforme pour réfléchir et pour discuter avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, il est question de l'accès aux trans dans les vestiaires de leur choix dans les écoles de Montréal. Le sujet du jour est inspiré d'un article du Journal de Montréal intitulé « Les élèves transgenres dans le vestiaire de leur choix ». C'est effectivement une première à la Commission scolaire de Montréal qui accommodera tous les enfants. C'est non seulement une première, mesdames et messieurs, c'est également un changement de cap, puisqu'en juin 2015, le Journal de Montréal rapportait le cas d'un ado de 16 ans à qui la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord interdisait de s'habiller en fille à l'école. Selon les informations obtenues par le Journal de Montréal, les élèves transgenres de la Commission scolaire de Montréal pourront bientôt choisir la toilette et le vestiaire où ils se changeront selon le sexe auquel ils s'identifient. Une première au Québec. Cela signifie par exemple, mesdames et messieurs, qu'un enfant qui s'identifie comme un garçon, alors que son sexe de naissance est féminin, pourra s'habiller comme il le veut et suivre des cours d'éducation physique avec les filles. Selon le Journal de Montréal, la Commission scolaire de Montréal est la première commission scolaire au Québec à adopter des directives aussi exhaustives sur les élèves transgenres, soit les enfants dont l'identité sexuelle ne correspond pas au sexe de naissance. Ici, la formule s'avère très simple, puisque selon le quotidien montréalais, dès qu'un enfant s'auto-identifiera comme transgenre, les écoles devront prendre les mesures nécessaires pour l'accommoder. Or, mesdames et messieurs, cette mesure est à risque, puisque n'importe qui peut prétendre être de l'autre sexe. Selon le quotidien du groupe Québécois, les enseignants devront utiliser le prénom et le nom choisi par l'élève et s'assurer de la confidentialité de son identité transgenre. Plus loin, on peut lire ce qui suit. En aucun cas, on ne peut divulguer l'identité transgenre d'un élève à d'autres élèves, à d'autres membres du personnel et même à ses parents sans son autorisation. Écoutez, mesdames et messieurs, cela veut dire qu'un garçon trans va garder des robes dans son casier qu'il va porter à l'école, mais il n'en dira rien à ses parents. On est en train de dénigrer l'autorité parentale et la responsabilité des parents. Toujours selon ce quotidien, on devra aussi permettre à l'enfant de porter les vêtements qui cadrent le mieux avec son identité et le laisser utiliser les toilettes et le vestiaire de son choix. Même chose pour les cours d'éducation physique ou les activités sportives où l'enfant devra se sentir à l'aise et en sécurité. Ce qui est étrange, c'est qu'on ne se demande pas si les jeunes filles vont se sentir en sécurité avec des garçons dans leur vestiaire ou dans leur salle de toilette. C'est certain que cette nouvelle fait des mécontents et la CSDM en est consciente. Voici ce que nous rapporte Sarah Maude Lefebvre, l'auteur de cet article. Est-ce que tout le monde sera content? Probablement que non. Mais c'est une question d'égalité et de respect, affirme la présidente de la CSDM, Catherine Harel-Bourdon. Par contre, de leur côté, les parents des élèves trans se réjouissent de la décision. On dit dans ce papier que le comité de parents de la CSDM se dit très heureux de l'arrivée de ces nouvelles directives. On peut voir que le comité de parents de la CSDM est composé majoritairement de parents pro-trans. Maintenant, une question légitime va certainement jaillir dans l'esprit de certains d'entre vous. Est-ce que le changement de genre ne sera pas un prétexte pour entrer dans le vestiaire des filles, puisque, selon le Journal de Montréal, le seul indicateur fiable de l'identité de l'élève est sa parole? Ses droits doivent être respectés s'il s'auto-identifie de manière claire et cohérente. Ce qui enlève du sérieux à cette démarche, mesdames et messieurs, c'est que conformément à ce que nous révèle l'article, le personnel de l'école doit obligatoirement utiliser le prénom et le nom choisi par l'élève, peu importe qu'il ait obtenu un changement de nom officiel ou non. Tout ça va nous amener éventuellement à n'avoir que des vestiaires multisexes, car selon sa préférence, l'élève peut bénéficier d'une toilette neutre, sans indication de sexe sur la porte, ou encore utiliser le vestiaire ou la salle de bain de son choix en lien avec son identité de genre. Mais là, pensez-vous que ça va se limiter à la région de Montréal et que c'est un cas isolé? Non, le lobby LGBT a pensé à tout. Selon le Journal de Montréal, le projet de loi 35, entré en vigueur l'automne dernier, ne touche que les adultes pour le moment. Il permet le changement d'identité sexuelle auprès du directeur de l'État civil sans opération de changement de sexe. La ministre Vallée voudrait aller plus loin et donner les mêmes droits aux mineurs sous certaines conditions, comme cela se fait en Ontario. Selon ce projet de loi 35 qui a modifié le Code civil pour accommoder la communauté trans âgée de 18 ans et plus et qui est en vigueur depuis le 1er octobre 2015, on peut lire ceci. Si elle appuie une demande de changement de la mention du sexe figurant à son acte de naissance, la déclaration sous serment du demandeur prévue à l'article 1 doit en outre attester que la demande du sexe qu'il demande est celle qui correspond le mieux à son identité sexuelle, qu'il assume et a l'intention de continuer à assumer cette identité sexuelle, qu'il comprend le sérieux de sa démarche, que sa démarche est faite de façon volontaire et que son consentement est libre et éclairé. La demande de changement de la mention du sexe figurant à un acte de naissance, outre les documents prévus à l'article 4, doit être accompagnée d'une déclaration sous serment d'une personne majeure qui atteste connaître le demandeur depuis au moins un an et qui confirme que le demandeur reconnaît le sérieux de sa demande. Dans le cas où le demandeur a déjà obtenu un changement de la mention du sexe figurant à son acte de naissance, la demande, outre les documents prévus aux articles 4 et 23.2, doit être accompagnée d'une lettre d'un médecin, d'un psychologue, d'un psychiatre ou d'un sexologue autorisé à exercer au Canada ou dans l'État du domicile du demandeur qui déclare avoir évalué ou suivi le demandeur et qui est d'avis que le changement de cette mention est approprié, compte tenu de la déclaration sous serment faite par le demandeur à l'appui de sa demande initiale. On demande cette rigueur aux adultes, mais pas aux jeunes qui sont en quête d'identité. On voit ici que la demande exigée par la loi en ce qui concerne les changements d'identité est plus rigoureuse que celle adoptée à la CSDM. À la CSDM, seule la déclaration verbale sera suffisante pour attester l'identité sexuelle. Le changement de nom en milieu scolaire pourra s'opérer sans changement légal et les parents ne seront pas tenus d'être renseignés de cette démarche. Moi, ce que je ne comprends pas, mesdames et messieurs, si à l'intérieur de la loi, pour les adultes, il y a un mécanisme et un processus qui fait en sorte qu'il doit y avoir une lettre d'un médecin, d'un psychologue, d'un psychiatre ou d'un sexologue autorisé à exercer au Canada ou dans l'État du domicile du demandeur, qui déclare avoir évalué ou suivi le demandeur et qui est d'avis que le changement de cette mention est approprié compte tenu de la déclaration sous serment faite par le demandeur à l'appui de sa demande initiale. En d'autres mots, là, comment se fait-il que pour un adulte, on a prévu un mécanisme où est-ce qu'on a recours ou on a besoin d'avoir une lettre d'un médecin, d'un psychologue, d'un psychiatre ou d'un sexologue pour confirmer que le changement de sexe est vraiment quelque chose de sérieux, mais que dans le cas des enfants à l'école, on n'a pas cette demande-là. C'est simplement sous la déclaration de l'élève. Le seul indicateur fiable, selon le Journal de Montréal, c'est sa parole. S'il s'auto-identifie de manière claire et cohérente, l'école doit se soumettre à la déclaration de l'enfant. Écoutez, là, on parle d'enfants entre 5 et 17 ans. Si l'enfant a 7, 8, 9 ans, il peut dire, par exemple, « Moi, je suis une fille, mais je me déclare un garçon. » Et sur sa parole, à ce moment-là, on va entreprendre des démarches pour lui permettre d'avoir accès aux toilettes ou aux vestiaires et même de participer aux activités sportives qui correspondent à sa nouvelle identité. Pourquoi il n'y aurait pas, par exemple, un suivi psychologique, une lettre qui atteste que oui, selon les spécialistes, il y a un changement d'identité? certains d'entre vous allaient dire « Non, non, on ne devrait pas l'accepter du tout. » Mais moi, ce que je suis en train de dire, là, c'est pas si c'est bien ou mal dans un premier temps. Je suis en train tout simplement de soulever qu'il y a un manque de rigueur. Et c'est à ça que sert le tour d'horizon. D'être capable de réfléchir, justement, sur les incohérences de notre système et découvrir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La seule raison pourquoi cette idée est entrée dans la commission scolaire de Montréal, c'est parce que le comité de parents est rempli de gens qui ont une vision pro-trans. L'absence des citoyens de bonne foi dans ces comités-là fait en sorte qu'on ne réfléchit plus ou du moins qu'on ne se pose pas les vraies questions. Maintenant, comment se fait-il que ça va devenir si facile pour un élève qui se dit trans d'avoir accès à ses droits et tous ses services sous la simple déclaration qu'il est quelqu'un d'un autre sexe? L'autre aspect, c'est que les parents sont évacués de tout ce processus-là. C'est dommage, ça. Parce que l'élève peut s'auto-identifier comme un transgenre, peut s'auto-identifier comme étant d'un autre sexe, sans le mentionner à ses parents, vivant une double vie, une vie à l'école et une vie à la maison. Et ce n'est que plus tard que les parents vont s'en rendre compte. Et ça veut dire, mesdames et messieurs, que l'école n'est plus l'extension du foyer. Bien au contraire, elle usurpe l'autorité parentale. En terminant, j'aime ça, moi, tenter de voir ou essayer de voir qu'est-ce que sera la prochaine étape. Où est-ce que ça va nous mener? On ouvre la porte, premièrement, aux individus, hommes ou filles, qui se considèrent d'un autre sexe, de pouvoir fréquenter des lieux comme les vestiaires, comme les salles de toilette, les lieux qui sont normalement spécifiques à un sexe en particulier. Où est-ce que ça va mener tout ça? Parce que ça commence dans les écoles. Prochaine étape, c'est les vestiaires sportifs. Par exemple, dans les arénas, dans les piscines municipales, etc. Par la suite, ça va aller jusque dans les aéroports et un peu partout. Donc, si on poursuit cette logique que les trans peuvent aller dans la toilette de leur choix, eh bien, est-ce qu'on va devoir mettre éventuellement un garde de sécurité à la porte, à savoir qu'est-ce que t'es toi? T'es homme, t'es femme, t'es trans. Donc, toutes les toilettes vont être ouvertes à tous. Ça va simplifier les choses. Et à ce moment-là, hommes et femmes vont se retrouver dans les mêmes lieux. Vous allez me dire qu'en Europe, il y a beaucoup de toilettes publiques où est-ce que c'est unisexe. C'est vrai. Mais qu'en est-il des vestiaires? Est-ce que, justement, les douches vont être ouvertes? Parce que dans beaucoup d'endroits ici au Québec, dans les vestiaires des hommes, les douches sont à air ouverte. Dans les vestiaires des femmes, eh bien, c'est des cabinets pour conserver une certaine intimité. Mais qu'en sera-t-il si, justement, chaque vestiaire sera multisexe? Est-ce qu'on va avoir des cabinets séparés pour assurer la discrétion? Ou bien on va avoir justement des aires ouvertes. Est-ce que ça va se faire progressivement ou est-ce qu'au début, ce sera des cabines séparées, mais pour des raisons économiques, on va mettre ça à aires ouvertes? Eh bien, c'est dans cette direction-là qu'on s'en va, mesdames et messieurs. Sur ce, puisque c'est déjà le temps de clore cette émission, je vous invite à ouvrir la discussion en m'écrivant à l'adresse suivante. C'est leblogueur@commercialericlantier.net. C'est leblogueur@commercialericlantier.net. Si vous désirez soutenir la mission de la station, vous n'avez qu'à vous rendre à radiovinouvellefm.com, radiovinouvellefm.com et procéder à un don via l'application PayPal située dans le bas de l'écran. Notre objectif est de 25 000 $. Merci de nous aider à diffuser pour la vie. Je vous invite également à être des nôtres du lundi au vendredi à 8h05 ou à 20h05 pour parcourir votre tour d'horizon. En terminant, n'oubliez pas que cette émission est disponible en tout temps sur le www.ericlantier.net. C'est le www.ericlantier.net. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir syntonisé le 92,7 FM ou radiovinouvellefm.com. Je vous dis donc à demain.
Merci d'avoir pris part à ce tour d'horizon. Le Tour d'Horizon existe grâce à la générosité de ses supporters et de ses commanditaires. Si vous désirez poursuivre la discussion, écrivez-moi à l'adresse suivante. leblogueur@ericlantier.net. Le Tour d'Horizon est accessible également au www.ericlantier.net. D'ici là, je vous invite à vous préparer pour un autre Tour d'Horizon. Au revoir!